commencement était la parole. Parole était avec Dieu. Dieu était la parole. La parole était au commencement et toutes choses ont été créées par elle. Et toi qui as dit, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ce matin, nous avons besoin d'être nourris. Il est écrit que toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre. Alors, enseigne-nous par ton esprit. La Bible déclare que l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Parle, Père, tes serviteurs écoutent et suscite encore dans nos cœurs la foi. Car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Alors, notre Père et notre Dieu, suscite la foi dans nos cœurs. Encourage-nous, fortifie-nous et révèle encore Jésus-Christ dans nos vies. Notre Père et notre Dieu, sois encore une fois honoré. Quelle responsabilité, encore une fois, que tu nous donnes de pouvoir transmettre ta parole, puis cette parole véritablement être porteuse de vie. Parce que ces hommes et ces femmes qui sont là, ils ont besoin de recevoir non pas la parole venant d'un homme, mais la parole qui vient de Dieu. Alors parle, tes serviteurs écoutent, et que ton esprit nous conduise pour la seule gloire de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous avons ainsi prié, et nous pouvons dire Amen.
Amen.
Amen. Amen, que Dieu vous bénisse,
Amen.
Que sa paix soit sur chacun de vous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une parenthèse dans ce que nous sommes en train de partager, mais qui correspond à la circonstance, c'est-à-dire Pâques. Et nous avons parlé du souvenir de la Pâque. Nous profitons de la circonstance, parce qu'aujourd'hui, ils ont dit que c'est le dimanche de Pâques. J'ai dit « ils ont dit », hein, pour faire le dire ainsi. Mais je veux expliquer, clarifier les choses qui concernent la Pâque. Voilà, c'est important. Donc, tout le monde est en train de célébrer la Pâque, la Pâque, la Pâque, dimanche de Pâques, c'est bien beau. Nous allons essayer de comprendre Pâques. Mais il est important de savoir une chose, c'est que dans la vie des hommes, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de célébrations qui nous amènent à des souvenirs. Normalement, les événements sont des choses où qu'on va célébrer et qu'on va encore réfléchir, revenir là-dessus. 14 juillet, si on dit 14 juillet, ça évoque quoi? Mais disons, vous êtes en France ici, là, non?
La
fête nationale. Si on vous dit le 1er mai,
la fête du travail, ouais.
Fête du travail, on va vous dire 25 décembre, Noël. Donc, quand nous regardons le calendrier grégorien, c'est-à-dire le calendrier que nous utilisons actuellement, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de fêtes.
Oui.
Et la Bible nous parle de fêtes, ça c'est vrai. Et dans la vie des enfants d'Israël, il y avait de façon générale cette fête. Et la Pâque, c'est la première fête. Parce que ce peuple, étant en Égypte, n'avait pas de calendrier à l'époque. En Égypte, c'était une famille, ce n'était pas encore une nation. Israël va devenir une nation en sortant d'Égypte lorsque Dieu va donner la loi à ce peuple-là. Et Dieu va organiser la vie de ce peuple-là. Parce que ceux qui sont rentrés en Égypte, c'était la famille de Jacob. Et lorsque Israël devient une nation, Dieu, dans son organisation, va leur donner des fêtes. Mais la Pâque, c'est la première fête, c'est la première des choses que Dieu veut que son peuple comprenne, retienne et se souvienne. C'est la Pâque et c'est de ça dont on va parler ce matin. Mais si je veux aller plus loin dans une dimension prophétique, on va se rendre compte que Dieu, en réalité, il n'est pas dans les fêtes. On fait beaucoup de fêtes, mais notre fête, et on va le voir, c'est Christ lui-même. Parce que Paul va dire, Christ est notre Pâque. En d'autres termes, on n'a plus besoin d'attendre le calendrier pour célébrer. Et ça, on va le comprendre tout à l'heure. Alors, on va, sans plus tarder, dans le livre d'Exode. C'est dans Exode que tout commence, le livre de la délivrance. Exode chapitre 12. La Pâque commence là. C'est Dieu qui en est l'initiateur. Exode chapitre 12. Alors, nous allons lire la parole de Dieu, je vais la lire. Exode chapitre 12, à partir du verset 1er, pour bien comprendre le contexte. Et après, nous irons dans le Nouveau Testament. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Donc, Pâques, c'est le début du calendrier juif. À partir de Pâques, c'est là que... C'est l'heure janvier, en fait. Hein, c'est le début de l'année. Voilà. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos ricins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous la mangerez à la hâte. Et là, pour la première fois, Dieu déclare, c'est la Pâque de l'Éternel. Pâque sans S. Parce que dans les fêtes, là, il y a un S. Ici, c'est pas Pâques avec un S, c'est Pâques sans S. Parce que Pâques avec un S, c'est leur invention. Ils ont ajouté, ils ont inventé une fête qui n'a rien à voir avec Pâques selon Dieu. C'est Pâques sans S. Si vous faites bien attention, le Pâques qu'on célèbre, c'est avec un S, hein, à la fin. Le Pâques S de la Bible, c'est son S. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. On peut s'arrêter là. Non, on va terminer au verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Nous sommes en Égypte. Dieu va instituer une fête, un événement au moment où son peuple est encore en Égypte. Ce n'est pas une fête qui va être instituée au moment où ils sont sortis d'Égypte. Ils sont encore en Égypte. Et à travers ce que Dieu va faire, il y a deux choses. Un, il y a un jugement que Dieu va faire venir sur l'Égypte. Et le jugement que Dieu va faire venir sur l'Égypte est un jugement qui va apporter la mort. La mort des premiers-nés, autant des hommes que des animaux. Et Dieu se décide finalement, pour la dixième plaie, de confondre tous les dieux égyptiens. Vous avez lu avec moi, je ne sais pas si vous avez bien lu. Hein. C'est ce qu'il a dit. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements quand il dit tous les dieux. Je ne sais pas, on avait combien, mais en tout cas, il dit tous les dieux de l'Égypte. Tous. Aucun dieu égyptien, ce jour-là, n'a été épargné. Non seulement les premiers-nés, mais les dieux égyptiens, les a tous confondus. Parce qu'il y avait un dieu de la mort en Égypte. Et la plupart de leurs dieux étaient incarnés par des animaux et tout cela. Regardez ce qu'il va faire. Même les animaux, il les frappe tous. On va voir comment les dieux là vont faire. Il va les confondre. Maintenant, à travers la Pâque, le Seigneur veut enseigner à son peuple. Déjà que cet événement-là, c'est un événement qui est fort parce que c'est un événement qui parle de leur délivrance. Mais avant de parler de leur délivrance, il y a d'abord leur préservation. Suivez-moi très bien, je parle de la préservation. Dieu va préserver le peuple d'un jugement qui va arriver en Égypte. Et donc, il y a trois choses que nous allons voir aujourd'hui au sujet de la Pâque qui nous a été révélée dans la parole de Dieu. Nous allons remarquer que l'élément central de la Pâque, c'est l'agneau. Tout tourne autour de l'agneau. Sans l'agneau, il n'y a pas de Pâque. Parce que tous les événements qui allaient se produire, c'est à travers l'agneau. Donc, la première vérité que nous devons comprendre par rapport à la Pâque, c'est qu'il fallait un agneau, mais pas n'importe lequel. Un agneau, un. Bien sûr, un mâle, mais sans défaut. Pur, parfait. Sans défaut. Il fallait un agneau. Il fallait un agneau sans défaut. Dans Jean 1, verset 29, lorsque Jésus passait au bord du Jourdain, le prophète Jean-Baptiste va le voir et il va dire publiquement devant tout le monde, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau, c'est l'image du Christ, bien sûr. Ce Christ parfait, sans péché, qui n'a point été conçu par la vertu de l'homme, mais par la vertu du Saint-Esprit. Il avait le corps comme nous, mais il n'avait pas la nature du péché. Je reprécise. Il avait une enveloppe, Jean 1, verset 1er dit quoi, la parole qui était au commencement, elle s'est faite chair et elle habitait parmi nous. Il avait une enveloppe, une apparence humaine, mais il n'avait pas la nature du péché. Ceux qui ont la nature du péché, ce sont les fils d'Adam, le premier homme. Mais lui, il est venu comme étant le dernier Adam sans la nature du péché en lui. En d'autres termes, il n'avait pas la semence du péché en lui. Le mal n'habitait pas en lui. Donc, il est né sans défaut. Le seul homme qui a été sans défaut, qui a marché en toute obéissance, fidélité devant Dieu, c'est Christ. Regardez, la plupart des hommes dont la Bible nous présente, à un moment donné dans leur vie, il y a eu une faille. Tous. Regardez, on commence par le patriarche Abraham. Regardez Abraham. Sa vie n'est pas aussi parfaite que celle. Regardez David. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme selon le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La chute, le péché de Bathsheba. Regardez Élie. Regardez Salomon. Ouais, ces hommes-là, qu'on le veuille ou non, à un moment donné de leur vie, ils ont failli. De façon générale, les grandes figures, hein? Moïse, toutes ces personnes-là, à un moment donné dans leur vie, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Parce qu'ils avaient la nature du péché. Mais Christ n'avait pas la nature du péché. Il était l'agneau sans défaut. Dieu savait très bien que pour le rachat de l'humanité, aucun homme pouvait racheter son voisin. Il fallait que lui-même descende. Personne ne pouvait sauver l'autre. Et il le savait. L'agneau devait être sans défaut. Un agneau parfait. C'est pourquoi Ésaïe 53 aussi le présente encore le Messie comme étant cet agneau que l'on mène à l'abattoir. Il est l'agneau de Dieu. Ça commence par Christ.
Christ.
Le point de départ, c'est lui, l'agneau de Dieu. Il n'a point commis le péché, il était saint. Souvenez-vous encore, lorsque l'ange Gabriel est venu voir Marie, il a dit quoi, Marie? Il dit, le saint enfant qui naîtra de toi, le saint enfant là, qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Il était saint. Rien à dire. Il était véritablement l'agneau sans défaut. On ne pouvait pas l'accuser. C'est ça, la première vérité, c'est que la Pâque de l'Éternel tourne autour de l'agneau. Cet agneau était sans défaut, l'homme parfait, c'est-à-dire Jésus. Maintenant, les deux autres vérités sont greffées à cette vérité-là. Parce que les autres vérités ne peuvent pas avoir de sens si au départ, il n'y a pas l'agneau. Deuxième des choses, cet agneau-là, pour donner le sens même à cet événement, devait être sacrifié. C'est-à-dire, le sang de l'agneau devait être répandu. Et nous parlons du sang de l'agneau maintenant. Le sang de l'agneau. Et vous allez remarquer que toutes les questions relatives au péché pour apaiser la colère de Dieu dans la Bible devaient être réglées par le sang. N'hésite pas à écrire, sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché. Le sang. Dans tout ce qu'il faisait, que ce soit dans le tabernacle, dans le service, il y avait toujours le sang qui devait être répandu. Et Christ, il a été donc crucifié et son sang a été versé. Alors nous allons voir justement la valeur et l'importance de ce sang-là. Déjà de façon globale et générale, nous voyons dans l'histoire des enfants d'Israël que le sang devait les préserver. De quoi? Mais du jugement de Dieu. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que si, par mégarde, ils avaient omis, bien qu'étant le peuple élu de Dieu, de mettre le sang sur les linteaux de leurs portes, ils allaient subir un jugement. Sinon, Dieu aurait pu tout simplement dire, écoutez, moi je vais m'occuper des Égyptiens. Vous l'arrêtez seulement dans vos maisons, il n'y a même pas besoin de mettre le sang, moi mais je vais m'occuper. Il leur dit, attention, mettez le sang sur les linteaux de vos portes là, afin que l'ange, le destructeur, passe par-dessus. Donc si, par excès de zèle, les gens s'étaient dit, mais nous on est le peuple de Dieu, Dieu va rien nous faire, attention. Dieu a appelé Moïse. Mais comme Moïse n'avait pas le signe de l'alliance dans sa famille, Dieu est descendu pour le tuer. Dieu, le même Dieu qui a appelé Moïse. Là. Mais dans la marche, Moïse n'a pas respecté les principes. Dieu est descendu pour le tuer. Dieu est un Dieu d'exigence. On ne joue pas avec Dieu. Donc les enfants d'Israël, si quelqu'un fait le zèle, non, on ne va pas mettre le sang. Lui, il dit, mettez le sang. Parce que le sang a toute une valeur dans ce que je veux faire. Et vous ne voulez pas mettre le sang maintenant, vous serez responsable. Donc, première chose que nous devons comprendre, et on va le lire ensemble en Colossiens 1, versets 20 à 21. Si une personne a trouvé, que nous découvrons la valeur du sang. Et toutes ces choses doivent être le souvenir justement de cette Pâque. Christ est notre Pâque, c'est vrai. Mais quel est le message que Christ, notre Pâque, nous donne? Colossiens 1, versets 20 à 21.
J'ai lu la parole de Dieu. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu. Dans les cieux, sur la terre, Dieu fait régner la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Vous aussi, vous vous étiez écartés de votre destination primitive. Votre pensée qui vous amenait à faire des œuvres mauvaises en témoignait. Par elle, vous étiez devenus pour Dieu des étrangers, des ennemis même.
Verset 21, c'est ça, tu as terminé le verset 21. Donc, au début de ce verset, on nous parle que nous sommes, là je résume, nous avons été réconciliés et la paix avec Dieu a été instaurée par le sang. La réconciliation et la paix entre les hommes et Dieu s'est faite à travers le sacrifice de Jésus. Parce qu'en réalité et en vérité, l'homme ne fait que revenir à Dieu. Parce que lorsque Dieu nous a créés, à travers la désobéissance d'Adam, toute la descendance s'est retrouvée en rébellion contre Dieu. Le péché a fait en sorte que nous soyons naturellement prédisposés à désobéir à la volonté de Dieu. Alors, tous les fils d'Adam naissent déjà en conflit avec Dieu. Le conflit avec Dieu ne commencera pas, frères et sœurs, lorsque vous allez commencer à poser des actes qui n'honorent pas Dieu. Le conflit avec Dieu commence dès l'instant où vous êtes déjà conçu et quand vous naissez parce que vous êtes des fils d'Adam. Tous les fils d'Adam, toute l'humanité déchue est en conflit avec Dieu. Ce n'est pas une question de faire des actes pour que Dieu soit fâché. C'est la nature du péché qui attire la colère de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous fils d'Adam condamnés par la nature que nous portons avant qu'on ait rencontré le Seigneur. Donc il n'y a pas, c'est pas comme certains qui pensent que c'est en faisant des actes donc on pêche et Dieu va nous juger par rapport à ces actes-là. Dieu ne juge pas les actes, Dieu va juger la nature même, c'est-à-dire la source qui amène ces actes-là. La nature du péché. Et nous naissons tous avec cette nature-là, tous. C'est pourquoi vous allez le remarquer, et comme on le dit souvent, vous n'apprendrez jamais à un enfant à faire le mal. C'est naturellement dans l'enfant. Les prédispositions sont là. Mentir, manifester la jalousie, de la haine, ces choses ne s'apprennent pas. On ne va pas à l'école pour apprendre ça. C'est en nous. Qui a appris aux enfants ces choses-là? C'est la semence du péché. Donc, tous ont péché. Parce que le péché, ce n'est pas que l'acte visible. Le péché est en pensée également. Le péché, c'est à travers des paroles, c'est à travers des actes concrets, des comportements. Le péché, ce n'est pas seulement ce qu'on a vu. C'est aussi ce que toi, tu penses, là, tes intentions cachées. Là. Dieu voit ça. Tous ont péché. Ils sont tous et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous, avant de rencontrer le Seigneur, en conflit avec Dieu. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est une vérité. Vous êtes en conflit avec Dieu quand vous n'avez pas rencontré Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a réconcilié le monde avec lui-même. Donc, si on dit qu'il a réconcilié le monde avec lui-même, c'est qu'il y avait un conflit. On ne peut pas parler de réconciliation sans conflit. C'est qu'il y avait un conflit. Quel était le conflit? C'est que les fils d'Adam, naturellement, sont à la désobéissance. Ils n'honorent pas Dieu. Normal que Dieu se dise, mais ils ne m'honorent pas. Ce peuple ne m'honore pas. Je les ai créés, mais ils ne m'honorent pas. Ils ne font pas ma volonté. Il y a un conflit qui est là. Mais par le sang de Jésus, ils nous réconcilient. Par le sang de Jésus, nous retrouvons la paix avec Dieu. C'est une bonne chose, non? S'il n'y avait pas le son, là, comment on se réconcilie? Deuxième vérité, acte 20, 28, et 1 Pierre 1, verset 19, on nous prépare 1 Pierre 1, verset 19, acte 20, 28. Le sang de l'agneau. Christ est venu. Christ a versé son sang. Et le sang de Christ a toute une valeur. Acte 20, 28, 1 Pierre 1, verset 19. Si une personne a trouvé, qu'elle nous lise la parole du Seigneur.
Acte 20, verset 19. Faites donc bien attention à vous-même et à tous les troupeaux dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang.
Prenez soin de l'Église qu'il s'est acquise par son sang. On parle ici du rachat, la rédemption par le sang. 1 Pierre 1, verset 19.
Celui la parole. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous.
Tu peux relire.
C'est mieux de commencer par les 18.
Là, tu es dans Parole vivante, c'est ça?
Parole vivante, mais il faut commencer par 18.
À partir de 18 dans les versions standards. 18 à 19.
Vous savez bien à quel prix vous avez été libéré. du monde, du mode de vie fut-il transmise par votre, par vos ancêtres. Mm. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous.
Amen. Ici, on nous parle du rachat. Le sang, c'est le prix du rachat. L'homme qui était esclave au péché, vendu au péché, ne pouvait être racheté que par un seul moyen, c'est le moyen du sang de Christ. C'est la Bible qui le dit. Le rachat, la rédemption, c'est par le sang. Et c'est là que vous comprenez que si nous avons été rachetés, c'est donc que nous lui appartenons. Nous sommes maintenant à son service. Le sang nous rachète. S'il n'y a pas le sang, il n'y a pas de rachat. S'il n'y a pas le sang, les gens sont encore dans leur péché. S'il n'y a pas le sang, les gens sont encore dans la servitude. S'il n'y a pas le sang, les gens sont encore dans l'esclavage du péché. Mais le sang nous délivre, nous libère de la servitude du péché. Et ça, nous le devons à notre Seigneur qui a acquise justement l'église que nous sommes par le sang. Nous lui appartenons, mais c'est parce que le sang a été versé. Troisième vérité, Hébreux 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14 et 1 Jean 1, verset 7. Hébreux 9, verset 14, 1 Jean 1, verset 7. Nous découvrons encore une fois la valeur du sang de l'agneau sans défaut. Hébreux 9, verset 14. Vas-y.
Si tel est le cas du sang du Christ qui s'est offert, lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant.
Très bien. Ici, et dans 1 Jean 1, 7, nous allons découvrir que le sang nous purifie. 1 Jean 1, verset 7. Est-ce qu'on peut lire 1 Jean
1, Jean 1, verset 7.
1 Jean, pas Jean. 1 Jean, c'est-à-dire avant l'Apocalypse, avant Jude, vous avez les épîtres de 1 Jean. 1 Jean 1, verset 7.
1 Jean 1, verset 7.
Oui.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
Amen. Et là, je vais ouvrir une parenthèse par rapport à ce verset pour expliquer quelque chose selon ce qui est écrit dans la Bible. De façon générale, on a vu ici que le sang nous purifie du péché. La purification ne peut se faire que par le sang. Sans le sang, ça veut donc dire que les gens sont toujours impurs. Donc, ce qui peut rendre pur, c'est le sang. Mais dans le passage que nous venons de voir, il est mentionné que cette purification par le sang ne se fait pas par invocation du sang. Et là, suivez-moi très bien, on n'invoque pas le sang pour se purifier. La Bible dit que si nous marchons, dans la lumière, et après, la suite dit quoi? Il y a des choses qui se font automatiquement parce que c'est spirituel. Que dit la parole de Dieu?
Nous sommes lumière si nous marchons dans la lumière.
Si nous marchons
vraiment en communion avec.
Nous sommes en communion et qu'est-ce qui va se passer?
Le sang répandu pour nous par Jésus
nous purifie de tout péché.
Ça, c'est dans la version parole vivante. Dans les autres versions, qu'est-ce qu'il est dit?
Oui, c'est ça. Il dit. Mais si nous marchons dans la lumière. Tout comme Dieu lui-même est dans la lumière.
Voilà.
Nous sommes en communion les uns avec les autres.
D'accord.
Le sang de Jésus.
Et le sang, conjonction de coordination.
Et le sang de son Fils nous purifie de tout péché.
Et ce sang-là va nous purifier à cause de quoi? Si nous marchons dans la lumière. Est-ce qu'il est dit qu'il faut invoquer le sang pour nous laver? Marcher dans la lumière, le sang vous purifiera. Marcher dans le péché, vous allez devoir confesser le péché. Mais si vous marchez dans la lumière, le sang, il nous purifie, dit la Bible. Alors, quand on invoque le sang, hein, déjà, le invoquer est un mot qui n'est pas approprié parce qu'on invoque un esprit.
Ça, c'est vrai.
Le sang n'est pas un esprit qu'on peut invoquer. On invoque des entités. Le sang n'est pas une entité. C'est une valeur symbolique quand la Bible parle du sang de Jésus. Vous savez, quand Jésus a dit que celui qui m'a mangé ma chair, là, il ne va pas boire mon sang, vous pensez qu'il parle au premier degré, vous êtes sûr? Sinon, on va devenir quoi, des cannibales. Jésus, vous êtes sûr quand il a dit qu'il faut manger sa chair et boire le sang? Est-ce que vous êtes sûr qu'il a parlé au premier degré, qu'il faut boire le sang de Jésus? Non? C'est comme pour l'agneau. Et tout ce qui est autour de l'agneau, ce sont des symboles qui nous parlent de Christ. Le sang de Jésus-Christ, on ne va pas l'invoquer. Ça, c'est déjà... Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur la question du sang, mais juste pour dire que vous n'avez pas le droit d'invoquer le sang. Hein. Ceux qui invoquent le sang, là, vous ne faites pas bien. On n'invoque pas le sang. Il faut connaître ce que le sang représente pour nous, mais vous ne l'invoquez pas. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Il faut savoir justement ce que l'agneau a fait pour vous et la valeur de son sacrifice pour pouvoir par la foi vous tenir devant l'ennemi de nos âmes pour lui dire attention. Christ m'a délivré. Voilà, la méconnaissance du sang fait que comme on n'a pas d'argument. Mais si vous savez ce que Christ, le sacrifice de Jésus a apporté dans vos vies là, quand Satan vient avec son mensonge, vous dites non. Vous savez que le sang vous a purifié, le sang vous a réconcilié, le sang vous a justifié, le sang vous a racheté, le sang vous présente. Si vous avez cette connaissance là, Satan, quand il vient avec son mensonge là, mais positionnez-vous dans la vérité, vous dites arrière de moi Satan, c'est faux, tu as menti. Mais c'est la méconnaissance qui fait que dans la panique, on est dans tous les sens, on commence à invoquer, crier et prendre les versets dans tous les sens. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de témoignage et du sang de l'agneau. Ce verset-là qu'on n'a même pas compris, et on commence à invoquer le sang. Ça veut dire quoi, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau? Mais justement, parce que le sang de l'agneau, quand il a été versé, il a accompli beaucoup de choses pour notre salut. Et face au sang, Satan, il sait. Satan sait ce qui s'est passé à Golgotha, hein? Rappelez-lui tout simplement, Satan, souviens-toi. Rappelez au diable, quand il vient vous déranger là, rappelez-lui ce qui s'est passé à la croix. Rappelez à Satan ce que l'agneau a fait pour vous. Rappelez aux démons ce que l'agneau a accompli pour vous. C'est tout. Parce que vous connaissez ce que l'agneau a fait pour vous. Mais si vous ne connaissez pas là, vous commencez à invoquer le sang dans tous les sens. Vous ne savez même pas ce que l'agneau a accompli pour vous. Normal, le diable, il va passer par là. Alors, il dit quoi? Quatrième vérité, Matthieu 26, 28, on a vu que le sang nous réconcilie, nous accorde la paix avec Dieu. Le sang nous rachète, le rachat par le sang. Le sang nous purifie de nos péchés. Et enfin, le sang à travers Matthieu 26, 28, le sang nous introduit dans une alliance nouvelle avec Dieu. Parce que dans Matthieu 26, 28, Christ explique la valeur de son sang. Matthieu 26, 28, est-ce qu'on peut lire? C'est lui-même qui explique la valeur de son propre sang.
Ah, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous, pour le pardon des péchés.
Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour le pardon des péchés. Donc, le sang apporte le pardon, mais également le sang nous introduit dans une alliance nouvelle avec Dieu. Parce que toutes les alliances que Dieu a faites, généralement, étaient scellées par le sang. Et donc, si le sang permet qu'il y ait le pardon, et bien plus encore, nous fait entrer dans une alliance nouvelle, alors nous devons comprendre justement ce que cela implique. Qui dit alliance nouvelle, dit nouvelle relation avec Dieu. Qui dit alliance nouvelle dit repositionnement avec Dieu. Nouveau statut, nouveau avantage que nous avons avec le Seigneur. Parce que il y a un changement de relation que nous avons avec Dieu à travers la nouvelle alliance. Si autrefois il était le Dieu juste des Juifs, aujourd'hui il est notre Dieu. Si autrefois nous ne pouvions l'invoquer parce que nous étions de simples pécheurs, maintenant nous sommes ses fils et nous pouvons nous approcher de lui. Si autrefois, justement, on ne pouvait pas se rapprocher de Dieu parce qu'il n'était pas accessible par le sang de Jésus-Christ et son sacrifice, il est accessible maintenant. Et Dieu ne nous regarde plus comme des simples créatures, mais comme ses enfants. La nouvelle alliance. C'est pourquoi vous devez comprendre ce que c'est la nouvelle alliance. Je l'ai dit et je le redirai toujours, la nouvelle alliance change de statut. La nouvelle alliance influe sur votre destinée. Parce que lorsque vous n'aviez pas le Seigneur, il y avait une destinée qui était déjà tracée, qui était rattachée à vos familles. Mais lorsque vous venez à Christ, il vous repositionne dans une nouvelle destinée. Et c'est pour comprendre ces vérités-là. Maintenant, c'est Dieu qui prend en main votre vie. Mais après, il faut croire que Dieu est suffisamment responsable pour s'occuper de nous. On est des humains et souvent nous avons des craintes et des peurs. C'est normal. Parce qu'avec Dieu, finalement, c'est un peu comme la marche vers l'inconnu. Mais la vérité, c'est que Dieu, il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur chacun de vous ». Dieu est suffisamment responsable. Donc, laissons maintenant Dieu nous conduire et c'est la partie la plus difficile. C'est pourquoi il nous invite à marcher par la foi. C'est-à-dire lui faire confiance. Si nous croyons que Christ est mort à la croix, qui nous a rachetés, nous avons été pardonnés, mais croyons également pour notre marche sur la terre avec le Seigneur, il prendra ses responsabilités. On ne peut pas que croire que Jésus, nous croyons sans l'avoir vu. Mais par rapport à notre vie, notre quotidien, on a du mal à croire. Il y a quelque chose qui cloche. Ou on croit que Dieu est capable, ou on croit que Dieu n'est pas capable. Et si Dieu est capable, alors apprenons à lui faire confiance. Ce n'est pas un acquis, hein? Ce serait de la prétention. Si je vous dis que c'était un acquis, mais il faut apprendre à lui faire confiance. Parce que dans tous les cas, on n'a pas le choix. Ou on lui fait confiance et on continue à regarder vers lui, ou bien on fait les choses à notre manière et on repart en Égypte. On n'a pas le choix. Mais tout commence par la rencontre que vous avez faite avec le Seigneur. Est-ce que vous l'avez rencontré? Et quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on ne peut pas le rencontrer sans que quelque chose se passe dans nos vies. Ce n'est pas une rencontre ordinaire, ce n'est pas monsieur tout le monde. Il y a des rencontres qui vous marquent, qui vous affectent, qui vous troublent, qui vous bouleverse. Vous ne pouvez pas dire que je l'ai rencontré et ça n'a rien laissé comme trace dans vos vies. C'est pas possible. La rencontre de Jésus là, tous ceux qui l'ont rencontré là, ils sont pas repartis les mêmes personnes. Hein? Ah non, non, non. Quand tu rencontres Jésus là, il y a quelque chose qui doit changer. C'est-à-dire que c'est, tu restes marqué. C'est comme sur le plan naturel, il y a des rencontres qui te marquent. Mettons même la Bible de côté. Là. Il y a des rencontres qui nous marquent dans la vie de tous les jours, oui ou non? Tu gardes le souvenir tellement ça t'a perturbé. Mais maintenant, le Seigneur, nous l'avons rencontré, qu'est-ce qu'il a laissé comme trace? Donc, ça c'est la deuxième vérité qu'il faut comprendre sur l'agneau. L'agneau était sans défaut, saint, sans tâche. L'agneau a versé son sang et la valeur de son sang, c'était pour nous rapprocher de Dieu. La valeur de son sang, c'était nous faire rentrer dans quelque chose d'autre avec le Seigneur pour que nous soyons sous la protection maintenant de Dieu. Israël, par le sang de l'agneau, s'est retrouvé sous la protection de Dieu de façon officielle, par le sang. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu le sang, il serait exposé au jugement. Mais le sang a fait en sorte qu'il soit préservé, protégé, gardé du jugement. Donc, le monde d'aujourd'hui qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui ne croit pas au sacrifice de Jésus-Christ, est exposé au jugement et à la colère de Dieu. Si les gens ne se réfugient pas en Christ, le jugement, la colère de Dieu va s'abattre sur l'humanité, sur tous ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus. Nous qui avons cru en Jésus, nous sommes protégés, gardés par le sang de l'agneau. Et Dieu, quand il nous regarde à travers du sacrifice de son Fils. Parce que nous sommes en lui. Et si nous sommes en lui, le « en lui », là, le « lui », là, c'est qui? Mais c'est celui qui est monté à la croix. Donc Dieu nous regarde à travers Jésus. Il ne nous regarde pas de façon isolée. Il nous regarde à travers Jésus. Parce que notre justice, en réalité, c'est celle de Christ. Nous ne pouvons que bénéficier ce qui est à Christ. Nous n'avons aucun mérite, rien. Tout ce que nous possédons, nous avons, ça vient de Jésus.
Amen.
Et c'est pourquoi la Bible dit en lui. Chaque fois la Bible dit en lui et en lui. Vous avez en lui, vous avez en lui, vous avez en lui, pas en dehors de lui, en lui.
Amen.
Le chrétien est en Christ. Tout ce que nous possédons, c'est en lui. Notre positionnement, nous approchons de lui dans la prière, tout c'est en lui. C'est parce que Christ, il vit en nous et nous sommes en lui. C'est un mystère, mais c'est la vérité. Et enfin, la troisième vérité, non seulement le sang devant être versé, mais on nous précise que l'agneau devait être rôti au feu. Et là, c'est important que je puisse l'expliquer. L'agneau devait être rôti au feu, pas bouilli. La Bible dit que l'agneau devait être rôti au feu, pas bouilli. C'est écrit dans vos Bibles. Et pas à demi-cuit. Quand vous allez dans le restaurant, vous avez le choix. Quand il faut parler de vos viandes là. Vous la voulez comment? Saignant ou bien cuite? Quand c'est saignant, ça veut dire que c'est à moitié cuit. Mais quand c'est bien cuit, là, c'est que c'est vraiment bien cuit. Notre Seigneur ne devait pas être saignant. Il devait être bien cuit. Pas de demi-mesure. Le sacrifice et l'œuvre de Christ à la croix étaient parfaits. Complets. Rien à ajouter. Rien à retrancher. Il devait être rôti au feu. Complètement rôti. Pas de bouillon. Pas une traçabilité de... Non! Il devait véritablement mourir à la croix, pas un semblant. Il devait être rôti au feu. Le feu du jugement de Dieu devait s'abattre sur lui complètement, pas à moitié. Dieu n'est pas dans les demi-mesures. Hein. Il n'est pas venu faire à moitié les choses. C'est pourquoi il a tout fait et il s'est permis de dire « Tout est accompli ». Quand tu dis que tout est accompli, c'est qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. J'ai réglé tout le problème. Il devait être rôti au feu. Rôti complètement. Complètement. C'est pourquoi il précise que l'agneau ne devait pas être bouilli. Il précise qu'il ne devait pas être à demi-cuit. Parce que le Christ à la croix, là, il n'a pas sauvé une partie des hommes. Il n'a pas sauvé seulement une partie des Juifs. Il a sauvé, il est venu pour sauver toute l'humanité. Et son sacrifice concernait tous les péchés. Pas une partie, tous les péchés. Tous les péchés. C'est pourquoi il était obligé de passer par le feu du calvaire, à travers la crucifixion. Parce qu'à l'époque romaine, la crucifixion était le supplice le plus ignoble, le plus, je sais pas, atroce. Sous l'Empire romain, crucifier quelqu'un là. C'était pas, on va juste frapper, hein, la crucifixion. C'était vraiment le summum de la torture, de la mort de quelqu'un. Il y a même des gens qui ont expliqué sur le plan médical ce que ça représente. C'est de l'agonie, c'est une souffrance que c'est pas possible, hein, ce qu'il a vécu à la croix là. Mais il fallait que le feu du jugement de Dieu s'abatte sur l'homme, Jésus. Il fallait que toute la... C'est là que vous allez vous rendre compte que Dieu ne joue pas avec le péché. Hein? Regardez toute la colère divine qui va s'abattre sur cet innocent-là à cause du péché. Dieu, dans sa justice, ne devait pas excuser le péché. Dans sa justice, le péché devait subir la condamnation. Et regardez comment un innocent a subi cette condamnation. Regardez, ça commence de par sa passion. Quand on vient l'arrêter, là, regardez le chemin. Il avait fait quoi même? Il a guéri. Il a nourri les gens. Il a enseigné, il a consolé, il a ressuscité des morts. Il avait fait quoi pour mériter la mort d'un brigand, d'un voleur? Et on l'emmène comme ça. Quand vous lisez le chemin jusqu'à la croix, toutes les séquences, on dit même dans des textes prophétiques, on lui a même arraché la barbe. Le dos a été déchiré par le fouet. On a craché sur lui. Il a été défiguré. Il avait fait quoi pour subir une telle condamnation, une telle souffrance? Il devait être rôti au feu. La pire des souffrances. Et lui qui était le Fils de Dieu se retrouve là entre ciel et terre, à moitié nu, devant des personnes pour qui il a fait du bien. Et nous, on va jouer avec le péché. S'il était question de dire qui pouvait se porter volontaire pour mourir comme ça, personne. Là où même les anges ont refusé, vous vous rendez compte? Même les anges ont refusé de descendre sur terre, porter le corps humain et aller à la croix. Personne n'a été trouvé digne. Parce que l'incarnation n'a pas commencé avec Jésus. Les anges aussi avaient des corps physiques quand ils étaient en mission sur la terre. Aucun ange a dit « Je veux partir ». Aucun. C'est pour dire que l'affaire de Golgotha, ce n'était pas des formalités. Attention, hein. Même les anges n'ont pas pu. Personne. Alors Dieu s'est dit, mais comme il n'y a personne, moi-même je vais descendre, puisque personne. Regardez même l'amour de Dieu. Dieu est vraiment amour. Il aurait pu forcer un ange là. Toi, viens ici, allez, hop, va mourir. Il aurait pu forcer un ange d'aller. Mais les anges, personne n'a été trouvé digne. Il dit, moi-même je vais descendre, puisque personne n'a été trouvé digne. Moi-même je vais descendre. Regardez l'amour de Dieu depuis les cieux. Ça n'a pas commencé à la croix.
Oui.
Même les anges là, ici, pour être témoigné de l'amour de Dieu, ils vont dire, ah, comment on l'a échappé belle. Hein? Il dit, Dieu nous aime. Dieu n'aime pas que les hommes, Dieu aime aussi les anges. Hein. Oui. Dieu nous aime. Parce qu'il aurait pu forcer. Hein. Il est souverain, oui ou non? Oui. Du haut centre, lié, toi le petit ange, là, toi qui es caché derrière le troisième rond, là, allez hop, descends. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut.
Oui.
Mais il va s'humilier. Il va s'humilier. Le Créateur va devenir pour un peu de temps une créature. Pourquoi? Par amour. L'agneau devait être rôti au feu et porter le jugement. Et ce jugement, on a dit rôti, brûlé, parce que frères et sœurs, Jésus ne devait pas faire de la comédie à la croix. Jésus est mort à la croix. Parce qu'il faut, il faut bien que nous puissions être d'accord sur ce fait. Jésus est mort à la croix. Il n'a pas fait la comédie, hein. Il est mort à la croix et sa mort a été constatée. C'est pas la comédie, hein. Parce que généralement dans le supplice de la croix, il faisait au moins 2 jours, maximum ou 3 jours, les gens pouvaient rester encore vivants sur la croix. Et ce qui fait que ceux qui ne voulaient pas mourir tout de suite, on leur cassait, brisait les jambes pour anticiper leur mort. Parce qu'il y en a qui peuvent rester là pendant 2-3 jours sur la croix. Et Christ, il est mort. Ils ont constaté qu'il était mort. Mais pourquoi on va casser les pieds? On n'a qu'à lui faire descendre la croix, ils l'ont percé le côté. Mais en même temps, c'était une valeur prophétique parce que justement, l'agneau, les os de l'agneau ne devaient pas être brisés. Les os de l'agneau pascal ne devaient pas être brisés. Ils devaient aller dans son entier, là. Et Christ, notre Seigneur, il est mort, mais il a été enterré. Jésus a été enterré. Hein. Et gloire soit rendue à Dieu, le troisième jour, il est ressuscité. Mais il est d'abord mort, parce qu'on ne peut pas parler de résurrection sans parler de mort. Christ est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité. C'est pourquoi il fallait qu'il soit totalement rôti au feu. Alors, frères et sœurs, Christ est notre Pâque. Et le souvenir de Christ... C'est ça ce que Dieu veut que nous puissions toujours avoir. N'attendons pas une fête du calendrier. Mais souvenez-vous tout simplement de l'agneau de Dieu. C'est tout. Qu'est-ce que Jésus représente pour vous? Quand on parle de Jésus, comment ça vous parle? Est-ce que c'est un simple nom? C'est juste un personnage historique? Quand on dit Jésus, ça vous dit quoi? Comment ça vous parle? Paul a dit, 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8, on termine par là. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8, c'est le verset de clôture. Corinthiens 5, versets 7 à 8. Christ est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8.
Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité.
Christ, a dit Paul, est notre Pâque. Et de la même manière que la Pâque était prise avec du pain sans levain, et des herbes amères. Il dit, souvenez-vous de ça. Parce que cet agneau-là, non seulement il était bouilli avec des herbes amères, la souffrance, la profonde douleur. Christ est notre Pâque. C'est par lui et par son sang que nous sommes purifié, justifié, pardonné, réconcilié, préservé, gardé. Nous bénéficions d'une alliance nouvelle. Christ est notre Pâque. Et nous devons célébrer chaque jour notre Pâque, qui est Christ, c'est-à-dire avoir un cœur reconnaissant. Tous les jours. À commencer par quoi? Mais par rapport au sacrifice qu'il a fait. C'est pourquoi Pâque étant la première fête, c'est la première des choses que Dieu veut qu'on se souvienne, ce qu'il a fait pour nous. La première des choses, ce n'est pas les autres choses qui viennent après. Là. La première des choses, c'est où tu étais là. Quand tu ne le connaissais pas, la rencontre que tu as faite avec le Seigneur. C'est de ça. Il veut que les enfants d'Israël devaient se souvenir toujours. Nous étions en Égypte. Il nous a préservés de la mort. Et il nous a fait sortir de l'Égypte. Parce que c'est ça, finalement, la Pâque. C'était le souvenir de leur délivrance. Ce souvenir qu'ils ont été rachetés. Dieu les a fait sortir. Christ est notre Pâque. Donc, quand nous sommes en action de grâce et que nous célébrons le Seigneur pour l'œuvre de la croix, pour tout ce qui concerne l'œuvre de la croix, nous sommes déjà en train de célébrer la Pâque. Ce n'est pas une question du calendrier. Nous devons toujours avoir un cœur reconnaissant. C'est pourquoi nous devons être à mesure de savoir ce que l'œuvre de la croix représente pour nous. Et c'est dommage parce que beaucoup de chrétiens se limitent à dire seulement Jésus est mort pour nos péchés. C'est tout. Mais est-ce que vous rentrez dans ces détails-là pour comprendre que c'était pour notre bien? Mais il fallait que l'agneau qui est mort pour nos péchés soit rôti au feu. Il était sans défaut, l'innocent s'est fait coupable. Le juste est devenu injuste. Le divin est devenu humain et a accepté l'humiliation. Et ça, si nous comprenons, si nous arrivons à comprendre la valeur de la croix, de l'œuvre de la croix, frères et sœurs, on ne va pas jouer avec le péché. On aura des cœurs pleins de reconnaissance à l'égard de Dieu. Parce que cette œuvre-là, s'il n'était pas lui-même descendu, nous serions encore dans nos péchés et nous irions tous en enfer sans détour, vers fer. Mais par amour pour nous, il est venu. Alors, au lieu de mal comprendre ce que c'est la Pâque, La Pâque, l'élément central, c'est un homme. Et cet homme-là, il faut le connaître. Ce n'est pas l'événement en lui-même, mais c'est l'homme qui fait l'événement. Et l'homme qui fait l'événement, c'est l'homme qui est présenté dans Ésaïe 53, l'homme de douleur. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Voilà les herbes amères. L'homme de douleur habitué à la souffrance. C'est cet homme qu'il faut connaître. Et si nous avons compris, on tombe facilement à genoux en adoration pour dire tout simplement merci Seigneur. Parce que si tu n'avais pas été livré, là, qu'est-ce que nous allions devenir? Si le monde qui nous entoure pouvait comprendre ça, que le sang a été versé et que la foi seule suffit pour bénéficier de tout ça, vous vous rendez compte? Le salut est offert gratuitement. Mais le Seigneur dit aux hommes, venez, par la foi c'est tout. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Mais celui qui croira sera sauvé. Donc ceux qui ne croient pas là, c'est triste parce qu'ils n'ont pas d'excuses. Le Jésus qui est chanté, le Jésus de Noël là, toutes ces informations sur Jésus là, ça va se retourner contre l'humanité. Parce qu'il n'y a pas d'excuses. Personne ne peut dire qu'il n'a pas jamais entendu parler de Jésus. Et les gens n'ont pas cherché à savoir un peu plus. Mais ce Jésus-là, c'est qui même? On parle de lui. Là. Et c'est autour de ce Jésus-là qu'il y a aussi beaucoup de controverses. Mais qui est ce Jésus? Parce qu'au niveau des musulmans, il n'y a pas de problème. Ils sont tous d'accord. Hein? Le Coran, le prophète, mais il n'y a pas de problème. Mais regardez là, il y a plus de controverses autour de Jésus. Et ça ne pousse pas les gens à réfléchir? Rien qu'autour de Jésus, là, regardez toutes les dénominations, toutes les églises, tout à cause de ce Jésus-là. Et ça ne pousse pas les gens à réfléchir que ce Jésus-là. Pourquoi c'est autour de ce Jésus-là qu'il y a tout ça? Nous n'aurons pas d'excuse que de ne pas pencher notre cœur à rechercher et à comprendre la personne du Christ. On va s'incliner et on va prier le Seigneur en action de grâce pour dire merci à Dieu pour l'œuvre de la croix. Merci encore au Seigneur pour Christ. Merci encore au Seigneur pour Golgotha. Merci encore au Seigneur pour le sang qu'il a versé à la croix. Merci pour la justification, pour le pardon, pour la réconciliation, pour la purification, pour la sanctification. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Nous remercions.